J'aimerais commencer en disant ceci. Dieu est l'être le plus joyeux qui soit. Êtes-vous d'accord avec ça? Dieu est l'être le plus joyeux qui soit. Et il désire que vous soyez joyeux. En fait, il l'ordonne. Oh oui! Dieu ordonne que vous soyez, que nous soyons joyeux. Et comme l'a si bien dit saint Augustin, ça fait quelques fois qu'on le répète parce que c'est tellement vrai. Dieu donne... Oui, merci. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors, voici comment ça marche. On va vous montrer un rond ici. D'accord? Lors de la création, vous avez ça sur l'écran, là? Lors de la création, j'ai besoin de voir un rond, là. Ça marche pas? Ça fonctionne pas? Oui? Ah, d'accord, c'est beau. D'accord. Lors de la création, Dieu nous a créés parfaits. Au centre, vous avez le cœur ici, d'accord? Le cœur était parfait, le corps aussi était parfait, tout était beau, la relation avec Dieu, c'était parfait, la relation avec les autres, ça c'est la flèche, le côté, c'était parfait, la relation avec la terre, c'était parfait, tout était beau. Qu'est-ce qui est arrivé? La chute est arrivée, le péché est entré dans le monde. Donc là, vous avez un autre rond qui vous montre que le cœur a été souillé, le corps a été souillé, la chair... Et là, la relation avec Dieu a été brisée. La parole de Dieu parle justement qu'on est séparés d'avec Dieu à cause de notre péché. Et les relations humaines sont brisées. L'orgueil est entré. Vous savez, l'orgueil dans les relations, ça aide pas. Vous le voyez à votre travail, dans le mariage et tout ça. C'est souvent l'orgueil qui nuit à nos relations. Tout est brisé. C'est brisé avec la terre. On se souviendra de Dieu qui va dire à Adam, « Maintenant, tu vas travailler à la sueur de ton front pour avoir des fruits et tout ça. » Difficile. Et ça, c'est le deuxième rond. Maintenant, le cœur est souillé, le corps est souillé, tout est souillé. Maintenant, heureusement, lorsque tu viens au Seigneur Jésus, il y a un changement qui se produit. Et le changement, c'est on a un nouveau cœur. Dieu change notre cœur, nous donne un nouveau cœur. Le cœur est purifié. La Bible dit que Jésus-Christ est allé à la croix pour nous purifier de toute cette souillure, ce péché, et il nous donne un nouveau cœur. Mais le corps, lui, n'a pas encore changé. C'est lorsque le Seigneur Jésus va revenir qu'il va nous donner un corps glorifié. Et on voit ça plus tard, un corps transformé, un corps parfait. Ça va être super. Mais en ce moment, ce n'est pas changé. Alors, il y a encore cet arôme de péché qui est là. C'est ce que la Bible et notre frère Dominique parlaient la semaine dernière, la chair, ces inclinaisons vers le mal. Le corps n'est pas changé. C'est un peu comme si tu donnais l'exemple d'une bouteille de whisky. Tiens, un 40 onces de whisky, tu prends la bouteille de whisky... Puis tu prends ça, puis tu la vides au complet. Ensuite, tu remplis ça d'eau et tu sens. Est-ce que ça va sentir encore le whisky? Oui, parce qu'il y a encore un arôme d'alcool, un arôme de whisky. Parce que tu as changé le contenu, mais tu n'as pas changé le contenant. Et c'est ce qui se produit avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, il nous donne un nouveau cœur, mais le corps n'est pas encore transformé encore. On n'a pas été glorifié. Donc, il y a encore cet arôme de péché. C'est ce qui s'appelle la chair, cette inclinaison vers le mal, cette lutte que nous avons. Mais heureusement, un jour, on va avoir un nouveau corps. On va avoir un corps changé, un corps glorifié. Et puis, il n'y aura plus de larmes, plus d'orgueil. Et ça va être super. Et ça va être glorieux. La Bible en parle justement dans l'Apocalypse et d'autres passages qu'un jour nous allons être transformés et ça va être merveilleux. Il n'y aurait plus de douleur, de tristesse. Ça va être parfait. On a hâte? Amen. On n'a pas hâte de mourir, mais on a hâte à ça, à cet aspect-là, n'est-ce pas? De ce temps glorieux d'être avec le Seigneur Jésus. Comme je disais à quelqu'un tout le temps, moi, j'ai pas peur de mourir. Je sais où je m'en vais. Mais c'est juste avant la mort... Tu sais, comme tu tombes malade et tout ça, c'est ça qui n'est pas le fun. Là. C'est vraiment pas agréable. Là. Enfin, quand on vient au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus nous donne un nouveau cœur. Et on voit ça dans Hébreux. Hébreux, chapitre 10, verset 16, ça dit ceci. « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur faute. » Alors, c'est Dieu, lorsque tu viens au Seigneur Jésus, c'est Dieu qui place sa parole dans notre cœur. Et c'est pour ça que c'est tellement distinct de la religion. C'est cette relation intime avec Jésus. Il y a un changement qui s'opère en nous. On a un nouveau cœur. Vous et moi avons besoin de nous répéter sans cesse qu'en Jésus-Christ, on a ce nouveau cœur. Et si on a un nouveau cœur où Dieu a écrit sa parole dans notre esprit, c'est dire qu'on va porter de beaux fruits. Il y a quelque chose qui va se produire. Les changements vont se produire. Et vous savez, comme la semaine dernière, on a commencé une nouvelle série qui s'intitule « Le fruit de l'esprit ». Et j'aimerais relire ce passage que nous avons lu la semaine dernière dans Galates chapitre 5, verset 22. On va se juste limiter au verset 22. Notre frère, pasteur Dominique, nous a vraiment exposé le passage et c'est très bien fait ça. Et là, on va s'arrêter juste au verset 22 qui dit ceci. D'accord? Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Mes chers amis, ce passage-là, là, c'est l'un des passages les plus clairs, les plus importants de la Bible pour comprendre la vie chrétienne. On ne peut pas comprendre la vie chrétienne si on ne comprend pas ce passage-là. Il s'agit de la croissance et de la grâce, de la manière de grandir en caractère surnaturel et en maturité. C'est la raison pour laquelle cette série sur le fruit de l'esprit est si importante, car rien n'est plus fascinant de voir et d'explorer ce que la Bible enseigne sur ce qu'on peut ressembler. Tu peux dire à ton mari, là, j'ai hâte de te voir dans 5 ans, parce que Dieu est en train de faire un changement dans ta vie. J'ai hâte de voir ça. Même chose avec l'épouse. Quand on marche avec le Seigneur, tranquillement, il y a ces changements qui s'opèrent dans notre caractère à mesure qu'on grandit. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la Bible nous enseigne que c'est déjà accessible. Lorsqu'on parle d'amour, de joie, de paix, de patience, on ne parle pas de quelque chose de l'extérieur, là. Il ne s'agit pas d'importer et faire entrer ces qualités dans notre cœur. On ne parle pas de ça ici, là. La Bible le dit, « Grandissez dans votre salut. » Maintenant, Philippiens chapitre 2, verset 12, dit ceci. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son projet bienveillant. » J'aime bien comment la traduction, la version, le semeur le rend bien. Il dit ceci, « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais aussi quand je suis absent, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » Il faut savoir que dans la ville de Philippe, et c'est à cet endroit que s'adressait cette lettre de Paul aux Philippiens, dans la ville de Philippe. Il faut savoir qu'à la ville de Philippe, il y avait des mines d'or, plusieurs mines d'or. D'ailleurs, les empereurs s'étaient enrichis avec ces fameuses mines d'or. Maintenant, il y avait une expression qu'on utilisait pour aller extraire l'or de la mine. On disait « travailler la mine ». Ce que ça voulait dire, c'est que tu travaillais la mine, c'est que tu allais dans la mine et tu faisais sortir la richesse, les pierres précieuses, l'or qui était là. Tu n'apportais pas l'or dans la mine, tu faisais sortir la mine qui était déjà là. La richesse était là. Tu faisais extraire, tu sortais cette richesse qui était là. Tu travaillais la mine. Maintenant, Paul se sert exactement de la même expression lorsqu'il dit « travaille à ton salut ». Fais sortir les richesses que tu as reçues grâce à Jésus-Christ au moment que tu t'es converti. T'apportes rien d'autre, c'est là, tout est là. Fais-les sortir. C'est la richesse à extraire du salut qu'on a reçu. C'est que tu ne prends pas quelque chose de l'extérieur pour l'emmener en dedans, c'est déjà là. Si tu es venu au Seigneur Jésus, toute la richesse du salut est en toi. Fais juste l'extraire. D'ailleurs, dans ce passage, dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18, le message de tout ce passage est ceci. Paul est en train de laisser comme message, « Laissez paraître les grâces de Jésus dans votre vie. » Laissez-les paraître, qu'on les voit. Et ce que ça laisse entendre, c'est que ces belles qualités, ces vertus dont la Bible dit qu'elles devraient faire partie, on devrait retrouver chez un chrétien, c'est déjà vrai pour le chrétien. Ce que ça signifie, c'est qu'au lieu de dire « j'y arriverai jamais », je suis impatient, je ne changerai jamais. Je m'a toujours été impatient. Non. C'est pas ça que tu dis. La question, c'est vraiment, quand vas-tu grandir? C'est là. Ne te contente pas de dire, j'y arriverai jamais. Parce que la réponse, c'est que tout est là. On a cela en nous. Alors, utilisons les moyens de la grâce et grandissons. Et lorsque Paul parle de la chair dans le passage que Dominique nous a expliqué la semaine dernière, dans tout le contexte, Paul parle de cette inclinaison vers une vie de rébellion contre Dieu. Et ça, c'est la chair. C'est la raison pour laquelle on a encore des luttes. Mais nos luttes, maintenant, se déroulent d'une manière tout à fait différente. En fait, on perd l'ancien combat, et on en développe un autre. Avant d'être chrétien, il y avait une lutte dans ta vie et dans ma vie. On se battait contre Dieu, la Bible le dit. Nous étions des étrangers de Dieu, même des ennemis de Dieu. Tu ne savais pas que tu te battais avec Dieu, mais c'est ce qu'on faisait. Parce que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Tous les êtres humains ont été faits et créés pour honorer Dieu, pour bénir Dieu, pour adorer Dieu, pour avoir Dieu au centre de leur vie. Mais au lieu, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis plein de choses au centre de notre vie. Et parce qu'on a centré notre vie sur plein d'autres choses, qu'est-ce qui est arrivé? On a connu une rupture dans notre vie. Vivre sans Dieu, c'est comme essayer de tirer un chariot sans roue. Ça marche un peu, mais ça traîne et ça se défait, puis ça fait des dommages. Et finalement, ça se désintègre. Alors, ça marche pendant un certain temps, mais finalement, au fil du temps, tu t'aperçois qu'il n'y en a plus de chariot. Vivre sans Dieu, c'est la même chose. On peut bouger, on peut aller de l'avant, mais ce n'est pas la façon dont on est créé. On a été créé pour Dieu, pour honorer Dieu. Alors, on travaille contre notre nature, cette nature qui avait pour objet d'honorer Dieu dans sa vie, et on a l'impression de se battre. Lorsqu'on devient chrétien, on est maintenant en paix avec Dieu. On a été réconcilié avec Dieu. Tout le péché a été réglé grâce à Jésus à la croix. Ça, c'est réglé, ça. On est maintenant en paix avec Dieu. En fait, même, il nous a même adoptés. Nous sommes ses enfants. Il est maintenant notre Père céleste. Il y a une relation qui est tout à fait différente. Et il y a un corps étranger qui arrive dans le cœur. À ce moment-là, c'est le principe de la sainteté. Et tout d'un coup, tu as une aspiration de Dieu. Et tu as une aspiration à la piété. C'est vraiment beau de voir ça avec une personne qui vient de se convertir. Hein. La première chose qu'il fait, il va aller s'acheter une Bible. Puis mon ami, ils vont s'acheter une Bible, puis plus qu'elle est épaisse, mieux que c'est. Il va dévorer la parole de Dieu. Là. Mais ça, c'est une aspiration qui est surnaturelle et ça vient de Dieu, ça. Une aspiration à la piété, être sensible maintenant tout d'un coup au péché. Une aspiration à l'amour, à la joie, à la paix, à la patience. Tout cela dans cette semence qui a été placée. Elle entre et s'installe dans notre nouveau cœur en Jésus-Christ. On a maintenant deux côtés. On a un côté qui a toujours tendance à vouloir vivre pour soi-même, et on a un côté qui désire maintenant vivre pour Dieu. Et c'est ainsi qu'un nouveau combat se manifeste. On ne se bat plus avec Dieu, c'est notre Père, mais on se bat avec la chair, notre ancien moi. Mais avec l'Esprit-Saint qui réside et qui agit maintenant en nous, on peut laisser paraître les grâces de Jésus dans notre vie. Et ça, c'est le fruit de l'Esprit. Maintenant, le fruit de l'Esprit est constitué, pour employer une expression que les théologiens utilisent, des attributs communicables de Dieu. Maintenant, il y a deux sortes d'attributs. On va vous montrer ça ici sur la diapo. Deux sortes d'attributs. Les attributs incommunicables de Dieu qui sont son omniprésence, son omniscience. Il sait tout, il peut être partout. Ça, c'est des choses qu'on n'aura jamais. Même dans l'éternité, on n'aura jamais ça. Il y a des gens, des fois, j'ai déjà entendu un chrétien dire, hey, moi, j'ai assez hâte d'être au ciel pour une chose. On n'aura plus de questions, on va tout savoir. Non. Non, non, tu ne deviendras pas Dieu, mais tu vas être à la bonne place pour avoir des réponses. Tu peux être sûr. On ne devient pas Dieu, on n'aura pas tous ces attributs incommunicables comme l'omniprésence, l'omnipotence et tout ça, non. Mais il y a ensuite des attributs de Dieu qu'on appelle des attributs communicables de Dieu. C'est les attributs. L'amour, la joie, ces belles qualités qu'on a, comme la sagesse. Et grâce à notre contact avec Dieu, notre proximité avec Dieu, ces attributs vont grandir en nous. Et comme Dominique le disait la semaine dernière, on devient comme Jésus en nous approchant de Dieu, en nous approchant de Jésus. Et plus on s'approche de lui, plus on le regarde, on le suit, on l'étudie, on marche avec lui, plus on va lui ressembler. Et c'est ça que Jésus veut faire. C'est ça que Dieu veut faire, qu'on devienne de plus en plus comme lui. Maintenant, ce n'est pas les méthodes qui comptent. Il s'agit de prendre la vérité de qui est Dieu et de garder les yeux sur lui. Le fruit de l'esprit, c'est les qualités de Dieu gravées dans notre âme maintenant que nous avons la nouvelle naissance. Nous sommes transformés à l'image de son Fils. Ce sont les attributs communicables de Dieu. Et le terme « fruit » dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est au singulier. Et ça, c'est vraiment important à souligner. Ce que ça signifie, c'est que l'amour, la joie, la paix, la patience, tout ça, ne sont pas des choses distinctes. C'est très important. Il faut plutôt considérer le fruit de l'esprit comme un diamant, avec différentes facettes, différents angles. Chacune des qualités est vraiment une facette. Vous pouvez regarder le diamant à travers n'importe quel angle et vous allez voir le reste du diamant. Ce que ça signifie, c'est qu'en fin de compte, si vous avez l'un des attributs ou l'un des fruits, tous les autres sont là. Prenons l'amour, par exemple. Si on aime comme la Bible dit qu'il faut aimer, on va aussi avoir de la joie. On aura la paix, on aura la patience. Si on a de la joie, tu vas avoir de l'amour, la paix, puis le reste. Si tu as la paix, tu vas avoir de l'amour. Ça vient ensemble. Et parce qu'ils sont liés, on ne peut pas vraiment avoir l'un d'eux sans développer le reste. Maintenant, oui, il est certainement possible, et c'est vrai, qu'il y a des retards dans certains domaines, c'est sûr. Mais on veut progresser. Et si on progresse, c'est essentiel. Et si on veut progresser, c'est essentiel de reconnaître où sont ces lacunes. On veut les développer, les travailler. Mais grandir dans le Seigneur, c'est grandir dans toutes ces facettes du caractère de Jésus-Christ. Maintenant, la semaine dernière, on a vu la première qualité de ce fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la joie. Et pour ce faire, moi, j'aimerais vous inviter à tourner dans Jean, chapitre 16. C'est un passage que je n'ai pas tellement développé lors de notre série que je suis, quand on a parcouru l'Évangile de Jean. Donc, Jean, chapitre 16, et ce qu'on va faire, on va lire les versets 16 jusqu'à 22. Jean 16, 16, jusqu'au verset 22. Et c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Il dit, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. » Alors, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par « encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus » et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, et parce que je vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que signifie ce que tu dis? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. » Les gars ne comprennent pas, là. Verset 19, Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. Il leur dit, « Vous vous interrogez les uns aux autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. En vérité, je vous dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Maintenant, les disciples n'ont aucune espèce d'idée de quoi parle Jésus. Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais, je vais vous quitter. Je m'en vais finalement vers la crucifixion. Je vais mourir, mais je vais revenir, puis je vais vous voir, vous retrouver, puis vous serez dans une grande joie. » Les disciples ne comprennent pas ce qu'il était en train de dire. Maintenant, Alors, il pose des questions. Maintenant, on ne va pas s'arrêter sur ce que Jésus est en train d'enseigner maintenant sur sa crucifixion, sur sa résurrection. Ce qu'on va faire, on veut s'arrêter sur ce que Jésus dit sur de la joie. Ce passage nous apprend quelques particularités de la joie. Et la première, c'est que la joie possède la particularité d'être l'essence même du chrétien. Verset 22, Jésus dit, « Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais vous allez me revoir et votre cœur se réjouira. » Jésus dit à ses disciples, « Écoutez, c'est maintenant le temps de l'affliction. » Mais vous allez me revoir, et là, vous allez vous réjouir. Il ne dit pas à ces chrétiens, certains seront dans la joie, puis d'autres dans la tristesse. Il ne dit pas ça, là. Vous allez être dans la joie. C'est un fait. Si on est un chrétien et qu'on a une relation personnelle avec Jésus-Christ, on va se réjouir. Et ce sera une joie que personne ne pourra nous enlever. Maintenant, la raison pour laquelle les chrétiens ont cette joie, hein, c'est qu'elle est une caractéristique de Dieu lui-même. Notre nouvelle relation avec Dieu nous transmet certains de ses attributs, ses qualités. Si on a une relation intime avec Dieu, on saisit certains de ses attributs, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Ce sont les attributs communicables de Dieu. La joie, c'est un attribut de Dieu. C'est propre à Dieu. Ce n'est pas le genre de chose auquel on pense, n'est-ce pas, quand on pense à Dieu. Dieu est joyeux. Première fois qu'il vient en tête quand tu parles de Dieu. On va faire un test. Je te dis, Dieu. C'est quoi cette image, hein? Souvent, hein, c'est l'image qui est fâchée. Déçue de moi. N'est-ce pas? Mais Dieu est l'être le plus heureux de l'univers. Il y a ce passage qui est vraiment remarquable dans Proverbes chapitre 8. Maintenant, Proverbes chapitre 8, pour le comprendre, il faut savoir que Proverbes chapitre 8, c'est la sagesse qui parle. C'est comme si la sagesse parle comme une personne. Et on le sait maintenant, ça parle même que la sagesse, j'ai créé le monde, etc., et tout ça. Et finalement, on sait par Jean 1 que Jean nous explique que la sagesse, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus dans Proverbes 8. Alors, il est question de la sagesse qui était avec Dieu au commencement, par laquelle toute la création a été créée. Proverbe 8, la sagesse parle donc comme une personne. Et ce qui est dit dans Proverbe 8, c'est vraiment impressionnant. La sagesse dit au verset 30, il dit, « J'étais à l'œuvre à ses côtés, je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur la terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. » Maintenant, le mot hébreu ici, dans l'original, dit ceci, « sachak », qui veut dire quoi? C'est un mot très inhabituel qui peut être utilisé pour Jésus, qui est utilisé pour Jésus ou pour Dieu ici, dans ce passage. C'est un mot qui veut dire « plaisir ». Oui, mais plus que ça, c'est un mot qui signifie « s'ébattre »,« bouger »,« courir »,« sauter »,« s'amuser ». Il signifie « sauter en l'air et frapper des mains ». Vous entendez ça, là? Les baptistes? Vous entendez ça, là? Hey, j'ai même vu le mot dans un lexique très spécialisé des mots originaux qui dit que le mot était parfois même utilisé pour danser. Danser. C'est le mot employé pour Jésus. Sauter, danser de joie. C'est notre Dieu, ça. Fascinant, hein? Voir Jésus-Christ qui utilise ce mot pour lui-même, il dit, je ne me suis pas contenté de regarder la création que j'avais faite, puis j'ai dit, c'est pas pire. Non, c'est la joie, il se réjouissait pleinement. Sophonie, chapitre 3, verset 17, dit ceci, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis se réjouira à grands cris à ton sujet. » Le mot original, ici, pour « il se réjouira à grands cris à ton sujet », dit littéralement, « il se réjouira en chantant. » À première vue, cette idée de Jésus-Christ qui saute de joie et tout ça, ça sent pas trop solennel, révérentiel. Ça dérange. Nous, on aime ça. Gêné. Gêné, nous autres, c'est vrai. C'est une joie qui est majestueuse. Une joie sainte, c'est ce que Dieu est. Alors, si un enfant de Dieu, si on est un enfant de Dieu, on a reçu cette joie. C'est essentiel. Non seulement la joie est essentielle à Dieu, mais c'est aussi essentiel à l'Évangile. Vous avez entendu le mot Évangile? Vous savez ce que ça veut dire, le mot Évangile? Ça veut dire quoi? On parle souvent de l'Évangile ici. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. En fait, le mot signifie les nouvelles, les faits qui apportent de la joie. Quand tu crois à l'Évangile, tu es en train d'emmener de la joie dans ta vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Le Seigneur des Anneaux. Alors, vous ne connaissez peut-être pas l'auteur, c'est Tolkien. C'est un écrivain, professeur d'université, tout ça. C'est un spécialiste de la littérature. Et voici, il a dit un jour dans un article où il parlait sur des contes de fées. C'est un spécialiste de la littérature. Il parle des contes de fées qui traitent de la fiction et de sa théologie, de sa théorie de la fiction. Tout ça. Dans l'article, il raconte que toutes les bonnes histoires qu'on a entendues et qu'on a tellement aimées depuis qu'on est jeune, là, je parle pas de la Bible. Toutes les histoires qu'on a entendues, les contes de fées, les poèmes et tout ça, là, en fait, sont basés sur l'histoire de l'Évangile. Voici ce qu'il dit. Il dit, l'histoire de l'Évangile, l'idée que nous sommes là, vivant dans un monde de ténèbres et de péchés, nous sommes sur le chemin de la mort et un héros apparaît. Quelqu'un fait irruption dans notre monde et s'attaque à notre destin. À la toute fin, il semble qu'il est définitivement perdu. Il semble qu'il a été battu. Mais il réussit à arracher la victoire des griffes de la défaite. Il jubile, il triomphe, il écrase le mal, il se révèle être bien plus fort que nous le pensions. Et un grand roi nous guide vers la victoire. Tolkien dit que c'est l'essence même de toutes les histoires que nous avons aimées depuis notre enfance. Il dit qu'il faut regarder toutes ces histoires que les gens aiment, qu'ils apprécient et qu'ils retirent de la joie. Tous les romans, les contes de fées, ils racontent. C'est tout le même genre de situation. On dirait une impasse. On dirait que tout est fini pour notre héros. Mais tout change. Ce que Tolkien dit ici, c'est que si on regarde de plus près, toutes ces belles histoires qui nous ont touchés et qu'on a aimées ne sont que des imitations. Ce sont des reflets d'Évangile, en fait. Tous les mythes qu'on a lus, qu'on aime, tous les poèmes, les histoires, tous les romans, les films comme Indiana Jones... Tout ça, même Indiana Jones, c'est un mythe moderne. Tolkien conclut en disant, l'essence de ce qui donne la joie aux gens, c'est l'Évangile. C'est la seule nouvelle, la seule histoire qui puisse nous donner une joie totale, pure et éternelle. On a besoin de croire à l'Évangile. On est fait pour ça, on a été créé pour ça. Tant qu'on n'a pas trouvé ce qui est plus grand, tant qu'on n'aura pas mis notre espoir en Jésus-Christ et notre espoir dans l'Évangile, on ne pourra jamais combler ce trou dans le cœur. Et on ne connaîtra jamais cette joie que Jésus promet. C'est pourquoi la joie est l'essence même de la vie chrétienne. Il y a une autre particularité de la joie qui est importante à souligner, et ce qu'on voit ici dans le passage avec Jésus, c'est que le contraire de la joie n'est pas la tristesse. Ceci est très clairement enseigné ici, tout au long de la Bible d'ailleurs. Le contraire de la joie, ce n'est pas la tristesse, c'est le désespoir. Ça, c'est le contraire de la joie, le désespoir. Ce n'est pas la tristesse. 1 Thessaloniciens 4, 13, Paul dit que les chrétiens s'affligent. Mais il dit aussi, « Je ne veux pas, dit Paul, que vous vous affligiez comme ceux qui n'ont pas d'espoir. » Certains pensent que les chrétiens ne doivent pas s'affliger. Manque de foi, c'est triste, c'est absolument faux. Ce n'est pas ce que dit Paul. Il dit que les chrétiens ont un type de chagrin, mais ils ont une espérance en l'avenir, une espérance en leur salut. La Bible nous montre constamment que notre joie est si grande qu'elle peut coexister avec la tristesse. Jean 16, 21, lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. C'est difficile un accouchement. Là, mesdames, je sais ce que vous pensez, là. T'es qui, toi, pour savoir comment ça fait mal? Franchement, tu sais. Et nous, on attend un peu, là. Moi, j'en ai eu 3 enfants, puis j'étais dans la chambre et tout ça, puis j'ai vu ma femme souffrir. J'ai pas souffert autant qu'elle. Mais j'ai un peu souffert, la voir souffrir. Mais elle souffrait, elle souffrait. Hey, non, écoute, moi, j'ai suivi les cours de prénataux. Hein, avec ma femme, on la suivait, puis tout, puis il disait, il faut que tu respires, il faut que tu l'ailles, il faut être ta femme, il faut que tu respires. Puis il y a des noms pour ça, hein, vous savez, là, comme, c'est quoi, comment il appelle ça? J'oublie, là. En tout cas, fait que là, moi, j'étais là, ma femme, j'étais prête, je devais suivre les cours, j'étais un expert, là, tu sais. Fait que là, j'arrive dans la chambre, ma femme est là, puis tu ah! Puis là, ça faisait mal, puis toi, t'es en train d'accoucher, ah! Puis il y a les infirmières, puis ah! Là, j'étais là, respire, chérie, ah! 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 Hey, j'ai tellement respiré, à un moment donné, là. J'étais rendu comme ça. L'infirmière me regarde, ma femme est en train d'accoucher, ah! Moi, j'étais là. L'infirmière s'en vient boire en courant, me donne un sac brun, puis j'étais là. Pendant ma femme était là. Deuxième fois, je souffre aussi, c'est quand c'était le temps de couper le cordon ombilical. Qui c'est qui a inventé ça? Le docteur, il est là, il me donne le cordon, tout ça, puis il donne un ciseau, puis il dit coupe! Tu sais, c'est comme du caoutchouc. Là, je recule. Le docteur dit, vas-y. Ben oui, mais tu commences un petit peu. Ah non, c'est terrible. J'ai souffert. Mais pas comme ma femme. Pas comme ma femme, tu peux-tu. Et l'un des beaux moments dont je me souviens, c'est lorsque ma femme, lorsque notre enfant est né, c'est de voir la joie de maman. C'est tellement glorieux. C'est magnifique. Ça, c'est fameux, ça. Le bébé, hein, sur le ventre de maman, tout ça, de voir sa joie, son sourire. C'est tellement beau. La douleur, est-ce qu'elle est terminée, madame? Non. La douleur est encore là. Ça fait encore mal. Il y a des douleurs physiques. Ce que Jésus dit, c'est que la femme, elle a encore mal. Mais il y a quelque chose qui se passe, que la joie va surpasser cette douleur-là. Elle est là, mais elle écrase un peu la douleur. La joie l'emporte sur la douleur. Certaines personnes viennent à Jésus pensant que toutes leurs douleurs vont disparaître. Ça ne fait pas des chrétiens forts, ça. Parce que tu vas être déçu. Je te le dis tout de suite. Non, la douleur est là. Mais Jésus... Nulle part fait cette promesse-là, de faire disparaître des douleurs. Il ne faut pas oublier que Jésus lui-même est appelé l'homme de douleur. Il nous est dit dans Hébreux 12, par exemple, qu'il a couru la course à cause de la joie qui lui était proposée, promise. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est à cause de la joie qui lui était proposée, il a couru la course lorsqu'il était ici sur terre. Il avait une joie qui l'emportait sous sa souffrance. Et c'est quoi cette joie? C'est de plaire à son père, mais surtout aussi de savoir qu'un jour, cette course qu'il menait dans la douleur et la souffrance allait nous emmener au ciel. Elle allait toucher nos cœurs, elle allait régler le péché une fois pour toutes. Et de nous avoir avec lui pour l'éternité. Il a eu une joie qui l'a aidé à continuer, mais elle s'est superposée à sa souffrance. Jésus avait une joie mêlée à la tristesse. La Bible nous dit que lorsqu'on devient chrétien, on devient à la fois plus heureux et plus triste. Beaucoup de gens semblent penser que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, on est juste heureux. Mais c'est faux. La Bible dit aussi que lorsqu'on devient chrétien, on devient plus heureux, c'est vrai, mais aussi on devient une personne plus triste. On éprouve une joie qu'on n'avait jamais eue auparavant. Mais on souffre aussi davantage. Pourquoi? Puis dans l'Ancien Testament, Dieu dit, « J'ôterai leur cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair, un cœur tendre. » Et quand on devient un chrétien et qu'on franchit la ligne de la foi, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne un cœur de chair. Il nous donne un cœur qui est tendre et qui commence à voir le péché dans notre propre vie. Et ça, ça nous fait du mal. Du mal à savoir qu'on est triste de Seigneur. On n'avait pas ça avant. On ne rationalise plus le péché. On ressent plus de tristesse face à notre péché. En plus, on regarde autour de nous autres et on voit que le péché autour de nous autres, comment les gens détestent Dieu. Et ça nous fait mal, alors qu'avant, on s'en foutait. On devient plus sensible. Moi, j'ai vu des gens durs, très, très durs, se convertir au Seigneur, des gens qui faisaient partie des Hells Angels. Ça, ils sont devenus des vrais toutous. Là. C'est tellement doux, ça. Mais la joie que nous donne le Seigneur écrase la tristesse. C'est un peu comme quand l'air froid rentre dans une maison, tu ouvres la fournaise et la chaleur remplit. Lorsque la tristesse rentre dans le cœur d'un enfant de Dieu, elle fait naître davantage de joie. La joie monte comme une fournaise. Elle surmège la tristesse. Et c'est l'image du chrétien qui est solide. Le chrétien est une personne qui a une fournaise de joie à l'intérieur, qui s'enflamme quand la tristesse arrive et qui l'écrase. Mais le chagrin est là. La joie est aussi permanente et profonde. Voyez, verset 22, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne va vous l'enlever. » La marque de la vraie joie, celle qui vient de Dieu, ne dépend pas des circonstances. Jésus ne change pas, c'est le même Dieu. Les gens changent, la bourse change, tout change. Mais si on apprend à tirer notre joie de Jésus, alors personne ne va pouvoir nous l'enlever. C'est permanent et c'est profond. Et fondamentalement, la joie, c'est le résultat de l'assurance de notre salut. L'assurance de notre salut vient du fait que nous savons que nous sommes sauvés, non pas par nos œuvres, mais par la grâce. L'assurance du salut est le moteur de base de la joie dans la vie chrétienne. C'est J.C. Ryle, un pasteur de Liverpool au 19e siècle, qui explique pourquoi l'assurance du salut est au cœur de la joie. Voici ce qu'il dit. Il dit « L'assurance contribue grandement à libérer l'enfant de Dieu d'un douloureux esclavage. » Et elle contribue puissamment à son confort. Elle lui permet de sentir que la grande affaire de la vie est réglée, que la grande dette est payée, que la grande maladie est guérie, que la grande œuvre est achevée et que toutes les autres affaires, maladies, dettes, œuvres, sont, en comparaison, minimes. Alors, pouvoir grandir dans l'espérance et la joie, jouir de Dieu, être excité de la pensée de régner avec Dieu un jour, c'est ça l'essence de la joie. La joie est réellement produite par Jésus aussi. Obéir à Jésus, connaître, prier. La joie dépend vraiment de notre obéissance au Seigneur et de le connaître de mieux en mieux. La raison est bien simple. Obéir au Seigneur nous donne une bonne conscience. Et si quelqu'un trouble notre conscience, si quelque chose trouble notre conscience, on doit s'en débarrasser, car l'essence de la joie est une conscience claire. Il y a une tranquillité qui s'installe. Vous croyez que vous êtes accepté tel que vous êtes avec le Seigneur, c'est ça qui est beau, et que nos péchés sont effacés, c'est ça l'assurance. Une autre raison que l'obéissance à Jésus apporte de la joie, c'est que Jésus en parle constamment. Il dit, si vous connaissez mes paroles et vous les obéissez, vous les mettez en pratique, vous aurez de la joie. Alors, lorsqu'on obéit au Seigneur Jésus, lorsqu'on obéit à sa parole, cela donne à l'Esprit-Saint la liberté d'opérer dans nos vies avec puissance. Jésus dit à ses disciples, « Quand vous me verrez, vous allez vous réjouir. » Maintenant, Jésus ne parle pas d'une vision physique. Oui, les premiers disciples ont vu Jésus physiquement, mais ça va bien au-delà de ça. C'est intemporel, c'est toujours. C'est une vision de foi. Et c'est la raison pour laquelle Paul peut dire, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous, » dit Paul. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Dans son livre « The Weight of Glory », C.S. Lewis dit que les gens se contentent de trop peu de joie. Notre Seigneur, dit-il, trouve nos désirs non pas trop forts, mais trop faibles. Regardez ceci, nous sommes des créatures tièdes qui s'adonnent à la boisson, au sexe et à l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Tout comme un enfant qui, ignorant des possibilités, persiste à jouer avec de la boue dans un quartier précaire, car il ne peut concevoir les plaisirs d'une escapade à la mer. Nous nous contentons trop aisément de notre situation actuelle. Alors, marchons avec Jésus, mes bien-aimés, et il va nous remplir d'une joie que personne ne peut nous enlever. La joie vient de Dieu. Dieu est plein de joie. Dieu est la source de la joie. De même que tout amour vient de Dieu, de même toute joie vient de Dieu. Il est dans la nature de Dieu d'être joyeux. Il est éternellement joyeux, il est joyeux en lui-même. Il était joyeux avant de créer le monde, il était joyeux après créer le monde. Il se réjouit de notre salut et Dieu est la source de toute joie. Néhémie 8:10 dit, « La joie de l'Éternel est votre force. » C.S. Lewis, je viens de terminer l'autobiographie de C.S. Lewis. Vous le connaissez à cause de son œuvre « Chronique de Narnia ». Lewis est décédé maintenant, mais Lewis était un athée intellectuel, brillant, professeur d'université, tout ça. C'est un athée. Il était en colère contre Dieu. Il connaissait 6 langues. Professeur de littérature à l'université. Il a rédigé sa biographie, autobiographie, qui relate son passage de l'athéisme au christianisme. Son cheminement a été excessivement difficile. De colère avec Dieu. Un jour, il s'est converti au Seigneur Jésus. Un trajet qui était très long, un cheminement très long, très difficile. Alors, il a écrit son autobiographie qui raconte justement son histoire, comment il est venu au Seigneur Jésus. Et savez-vous comment il a intitulé son autobiographie? Surpris par la joie. Et la joie avec un gros J. Surpris par la joie du Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été surpris par la joie du Seigneur? Amen. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier de tout cœur pour tous ces attributs que tu, communicables que tu nous donnes, que tu nous transmets, la joie. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous aider à grandir. Grandir dans ces belles qualités, le caractère de Christ. Et merci que tout est possible, tout est là. Nous voulons travailler, faire fructifier notre salut pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.